Prologue. Il en faut un, non ? Dans la satire seconde, plus connue sous le nom de Neveu de Rameau, le personnage du neveu, ou lui, rêve d'être un grand homme, sans pourtant le mériter. Il serait prêt à voler les œuvres de son oncle pour avoir le statut de grand homme. Et puis, il dit, il raconte, il imagine ce qu'il ferait s'il avait, s'il jouissait, comment il jouirait de ce statut de grand homme. Il s'imagine ayant une allure, marchant avec l'air d'un homme important. Et il imagine les hommages qu'on lui rendrait, les hommages immérités qu'on lui rendrait. Sans faquin me viendrait encenser tous les jours. Et il croyait les voir autour de lui. Il voyait Palisseau, Poincinet, les Frérons, père et fils, la porte. Il les entendait, il se rengorgeait, les approuvait, leur souriait, les dédaignait, les méprisait, les chassait, les rappelait. Puis il continuait, et c'est ainsi que l'on dirait le matin que tu es un grand homme. Tu lirais dans l'histoire des trois siècles que tu es un grand homme. Tu serais convaincu le soir que tu es un grand homme. Et le grand homme, bravo le neveu, s'endormirait au doux murmure de l'éloge qui retentirait dans son oreille. Même en dormant, il aurait l'air satisfait. Mais oui, mais ce seraient des éloges immérités. Plus loin, toujours dans le même texte, Rameau raconte ce qu'il ferait s'il était riche. Ah, s'il était riche, il rêve d'être riche. Alors, que ferait-il ? Comment il obtiendrait, toujours sans les mériter, les éloges des critiques ? Tout le monde viendrait le voir, tout le monde attendrait quelque chose. Et il jouirait d'entendre les hommes de lettres, véritables, mis en pièces par ses obligés. Devant lui, on critiquerait les Voltaire et les autres. Il dirait qu'on m'amuse, et on l'amuserait. Qu'on me déchire les honnêtes gens, et on les déchirera si l'on en trouve encore. Et puis, imagine-t-il, nous aurons des filles, nous nous tutoierons quand nous serons ivres, nous nous enivrerons, nous ferons des comptes. Et ceux qui attendraient quelque chose de lui s'efforcerait de dire du mal des grands hommes, des véritables hommes de lettres. Eux, nous prouverons que de Voltaire est sans génie. De Voltaire. Que Buffon, toujours guindé sur des échasses, n'est qu'un déclamateur empoulé. Que Montesquieu n'est qu'un bel esprit. Nous relèguerons d'Alembert dans ses mathématiques. Scientifique, pas un homme de lettres, pas un artiste, pas un grand homme. Nous en donnerons sur dos et ventre à tous ces petits catons, comme vous qui nous méprisent par envie, dont la modestie est le manteau de l'orgueil et dont la sobriété est la loi du besoin. Plus tard, on apprend que jusqu'à la veille, Rameau, le neveu, neveu d'un grand homme, mais qui n'est pas lui-même un grand homme, musicien, mais qui n'est pas un grand musicien, et qui a rarement été honoré, il a rarement entendu des éloges, mais il aurait tellement aimé, eh bien que jusqu'à la veille, il a fait partie de ce petit groupe qui était prêt à tout, et qui était prêt notamment à déchirer les hommes de lettres. Il était le fou de Bertin, comme on le voit dans ce passage. C'est là, donc, à l'instant, on évoquait la possibilité d'entendre les autres déchirer les hommes de lettres, mais lui a fait partie de ceux qui ont fait cela. Jamais, donc dans la ménagerie de Bertin, jamais on ne vit ensemble tant de bêtes tristes, acariâtres, malfaisantes et courroucées. On n'entend que les noms de Buffon, de Duclos, de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, de D'Alembert, de Diderot. Et Dieu sait de quelles épithètes ils sont accompagnés. Nul n'aura de l'esprit s'il n'est aussi sot que nous. Alors, moi, ou le philosophe, résiste comme il peut, Et il finit par rétorquer « Insulter la science et la vertu pour vivre, voilà du pain bien cher. » Alors on peut penser que dans le personnage du neveu se trouve présenté en négatif les valeurs fondamentales de la République des lettres. Le neveu n'est jamais parvenu, c'est un musicien, mais tout en parlant d'un musicien, on parle, Diderot évoque, les instances de reconnaissance de la légitimité de ceux qui demandent le suffrage du public ou de leur père. Donc le modèle qui est derrière tout cela, c'est celui de la République des lettres. De son côté, Diderot, on le sait, prolonge, au contraire, et fait évoluer dans le sens d'un élargissement ces principes hérités de la République des lettres. Alors un mot sur l'histoire de la notion de République des lettres et en direction de ce problème de l'éthique de l'homme de lettres. Comment l'homme de lettres doit-il se comporter pour être digne de sa fonction, car il y a des devoirs de l'homme de lettres, ou pour l'homme de lettres, selon Diderot. Quelle attitude, quelle mœurs l'homme de lettres doit-il, selon Diderot, adopter pour être conséquent et donc digne de son état? À quels principes moraux doit-il se conformer? Quels effets peut-il espérer obtenir pour lui-même et pour la société? À la base de son éthique, c'est-à-dire des principes qui orientent son comportement en fonction de son état, son statut d'homme de lettres et de philosophe, on trouve le modèle adapté de la République des lettres. La République des lettres, comme vous le savez certainement, en tout cas l'expression est extrêmement répandue, est une communauté idéale qu'un certain nombre d'hommes de lettres et de savants ont cherché à réaliser, comme montre en particulier la correspondance d'Erasme. Cette communauté, qui n'a jamais pris la forme d'un véritable État, bien entendu, n'est pas pour autant restée au stade de l'utopie. C'est donc à la fois une idée ou un idéal et une réalité. Il y a une certaine réalité de la République des lettres. Alors, la première occurrence connue sous sa forme latine date certes de 1417, mais il faut attendre un peu plus longtemps pour que l'expression devienne fréquente et que son contenu se précise. On peut d'ailleurs distinguer trois grandes significations, la troisième étant celle qui s'est imposée. Dans quelques cas, l'expression renvoie au modèle des académies ou des universités. Plus souvent, elle désigne les gens de lettres et les lettres elles-mêmes, et peut dans ce cas envelopper les individus aussi bien que leurs œuvres. Elle connaît d'ailleurs un grand succès dans différentes langues européennes. Pierre Bayle va ainsi publier les Nouvelles de la République des lettres à partir de 1684. En hollandais, il existe l'expression « Republiek der Geleerden », en allemand « Gelehrtenrepublik ». Bon, on trouve comme ça l'expression, ce qui indique sa diffusion, son succès, mais aussi son importance, sa valeur. Enfin, et surtout, l'expression peut renvoyer à un état d'un genre particulier. Et cette analogie avec un état a bien sûr ses limites. Dans le dictionnaire de Furtière de 1690, on lit ceci, on dit « République des lettres » en parlant collectivement de tous les gens d'études. Lettres a alors un sens très large. Le dictionnaire de l'Académie note « On appelle figurément la République des lettres les gens de lettres en général, considérés comme s'ils faisaient corps. » Si la première occurrence dont on vient de parler remonte au début du XVe siècle, c'est par la suite que cette notion se précise, on l'a dit, en particulier sous la plume de Pierre Bayle, dans un texte désormais très connu, mais qui au départ était assez discret, puisque c'est une note à un article du Dictionnaire historique et critique. Alors, dans cette note, il dégage un certain nombre de caractéristiques que l'on retrouve avec des variantes dans l'éthique de Diderot et plus généralement d'ailleurs au fondement même du projet de l'encyclopédie. On va retrouver les mêmes critères, les mêmes caractéristiques, les mêmes exigences, avec quelques différences fondamentales dont on parlera dans un instant. Alors ce que dit Bell, c'est qu'il s'agit d'une communauté de savants et de lettrés, lesquels, je synthétise, sont unis par le souci de la vérité. Ils sont conscients de la nécessité de préférer la discussion argumentée aux polémiques jugées vaines et en particulier aux attaques ad hominem, à toute forme de satire. Aux yeux des membres de la République des Lettres, rien n'est plus dommageable à la paix et à la justice que d'oublier l'apport des érudits et des savants. Donc, il faut apprendre à reconnaître le mérite des érudits et des savants. Il faut donc apprendre à hiérarchiser les découvertes et il faut savoir honorer les hommes qui le méritent, hein, idée qu'on retrouve aussi dans les lettres philosophiques de Voltaire. Il y a des pays où on reconnaît mieux le mérite des hommes de lettres et des savants. Ajoutons qu'il s'agit d'une communauté internationale et d'une communauté qui prône le cosmopolitisme. Alors, dans le fameux texte qu'on cite toujours pour définir la République des Lettres, parce que c'est un texte remarquable, qui est une note du dictionnaire de Bayle, celui-ci insiste sur le fait que l'un des maux auxquels la République des Lettres doit faire face, ce sont les satires. Le fait qu'il y ait des hommes assez mesquins pour s'attaquer, des hommes de lettres assez mesquins pour s'attaquer à d'autres hommes de lettres. Sachant qu'homme de lettres peut englober ici les savants. Hein. Bref, à faire un mauvais usage de leur talent, on sous-entend très souvent que justement, s'ils font un mauvais usage de leur talent, c'est peut-être qu'ils n'en ont pas assez, ou alors qu'ils sont aveuglés par leur passion, car il existe aussi de vaines querelles entre grands savants. Hein. Mais la République des Lettres doit savoir arbitrer ces différends, par exemple, pour savoir qui le premier a découvert ceci ou cela. La question se pose régulièrement. Mais sur le principe, il faut absolument éviter les satires. C'est que, écrit Bayle, les satires tentent à dépouiller un homme de son honneur, ce qui est une espèce d'homicide civil, et par conséquent une peine qui ne doit être infligée que par le souverain. Mais la critique d'un livre, hein, donc on peut très bien critiquer un livre, même être très sévère, mais il ne faut pas céder à la critique des personnes, il ne faut pas céder à la diffamation aussi. Mais la critique d'un livre ne tend qu'à montrer qu'un auteur n'a pas tel et tel degré de lumière. Or, comme il peut, avec ce défaut de science, jouir de tous les droits et de tous les privilèges de la société, sans que sa réputation d'honnête homme et de bon sujet de la République des Lettres reçoive la moindre atteinte, on n'usurpe rien de ce qui dépend de la majesté de l'État en faisant connaître au public les fautes qui sont dans un livre. Donc, au sein de la République des Lettres, il est tout à fait normal de rédiger des critiques parfois même très poussées, très sévères. On peut même considérer qu'un livre n'a aucun intérêt. Ça ne pose pas de problème, à condition que cela reste dans les limites de la critique du contenu et que cela n'atteigne pas la dignité des personnes, leur réputation. Alors, ça peut bien sûr finir pas atteindre leur réputation, mais ce n'est plus le problème du critique, c'est le temps qui fera ce travail, c'est le public. La République des Lettres privilégie donc la raison. Hein, il peut arriver. Il est vrai que par là, on diminue quelquefois la réputation d'habile homme qu'un auteur s'était acquise et le profit pécuniaire qu'il en tirait. Mais si on le fait en soutenant le parti de la raison, et par le seul intérêt de la vérité, et d'une manière honnête, tout ça on pourrait le lire, on le lit d'ailleurs dans l'encyclopédie, et d'une manière honnête, personne n'y doit trouver à redire. On n'a rien de commun avec les faiseurs de libelles diffamatoires. On n'avance rien sans preuve, on se porte pour témoin et pour accusateur. Bref, on peut soi-même, à son tour, hein, être attaqué par d'autres hommes de lettres, si on a été imprécis, si on a oublié de citer quelqu'un, etc. Mais un faiseur de libelles se cache afin de n'être pas obligé à prouver ce qu'il publie et afin de pouvoir faire du mal sans être responsable. Alors j'ai commencé à le dire, on retrouve tous ces principes chez Diderot et au fil du temps, on va voir que le modèle de la République des lettres se transforme jusqu'à devenir ce qu'on a ensuite baptisé les Lumières. C'est-à-dire une communauté qui propose non seulement de faire prévaloir la raison, mais d'élargir le groupe de ceux qui ont accès au savoir, ce qui est une grande différence par rapport au XVIIe siècle, mais tout de même ce qui présuppose le modèle en question. Donc on retrouve le principe de l'universalité, la préférence pour le cosmopolitisme par rapport aux intérêts purement nationaux, le rôle déterminant de la vérité, la diffusion des savoirs, l'égalité entre hommes de lettres, entre hommes de lettres, on parle entre égaux. Le principe de la tolérance, l'apologie de la liberté et de la liberté de mener des recherches et aussi de publier ces recherches ou d'autres œuvres d'ailleurs. À cet égard, la façon dont Diderot et d'Alembert évoque le problème de la satire personnelle dans l'encyclopédie est particulièrement riche d'enseignements. Ils vont à leur tour rencontrer ce problème, problème qui devient encore plus important car la diffusion des textes est en train de s'accroître de façon exponentielle. Donc les reproches adressés, la réputation atteinte d'un homme de lettres va toucher de plus en plus de gens. Donc non seulement le problème n'est pas du tout réglé, mais le problème n'a jamais été aussi important. Si on fait courir une rumeur sur quelqu'un, elle circule encore plus, ou elle touche beaucoup plus de monde dans un temps encore plus limité. Donc on observe une sorte d'hésitation, ou en tout cas une difficulté, un embarras. Les mêmes qui prônent la plus grande liberté d'expression vont se poser la question de savoir quelles sont les limites à la liberté d'expression et vont donc entrer en dialogue aussi avec le directeur de la librairie. Et paradoxalement, c'est ce dernier qui sera le plus tolérant, pour des raisons aussi d'administration. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles et des choses qui ne sont pas réalisables. Alors, un point sur cette question. Donc, dans le discours préliminaire de l'encyclopédie, qu'on attribue à d'Alembert, mais qui vient d'une collaboration, qui a au moins été discutée, dans l'article encyclopédie, qui lui est de Diderot, dans les avertissements de d'Alembert, mais aussi de Diderot dans le tome 8, on retrouve cette même idée. D'Alembert et Diderot ne cessent de réaffirmer, et avec beaucoup de force, leur rejet et leur mépris des satires personnelles. La satire personnelle, c'est ce qu'il faut redouter. C'est ce qui rend la République des lettres plus faible. C'est ce qui pourrit le monde de la culture. Question, faut-il pour autant sévir, et de quelle façon, contre ceux qui écrivent et publient des satires personnelles, diffames ? Alors, l'un des inconvénients de cette situation et de cette discussion, c'est que les positions vont s'en trouver en quelque sorte durci. Les hommes de lettres vont être amenés à poser la question de savoir à quelles conditions on peut légitimement se prétendre homme de lettres. Alors, c'est un inconvénient, puisqu'il y a plein de cas limites. Du point de vue de la simple définition, quelqu'un qui écrit, c'est un homme de lettres. Eh bien, mais on va poser la question de savoir s'il y a des hommes de lettres indignes de ce titre. Gros problème qui va marquer toute la seconde partie du XVIIIe siècle. Alors, ça a commencé avant, mais les enjeux sont de plus en plus importants au cours du siècle, comme beaucoup d'entre vous le savent. Donc, il faut absolument trancher cette question. Que devons-nous faire devant la diffamation, devant les accusations de plagiat, devant les rumeurs qui peuvent atteindre la vie privée d'un auteur? Que faut-il faire? Cela relève-t-il de la librairie? Est-ce qu'on doit interdire le livre? Est-ce qu'on doit poursuivre le libraire? Ou bien des tribunaux ordinaires? Ou bien encore, puisqu'on parle de littérature au sens de texte qui circule, est-ce qu'on doit s'en remettre au jugement des pères, c'est-à-dire des autres hommes de lettres, et au jugement du public, c'est-à-dire non seulement les pères, mais tous ceux qui peuvent lire ces textes. Alors, exemple de cette façon d'amener le problème dans l'encyclopédie, et je prends un texte où il n'est pas abordé de front, mais où il est sous-entendu. D'Alembert, dans l'avertissement des éditeurs au tome 3 de l'encyclopédie en 1753. Il est soucieux, évidemment, de reconnaître les mérites des hommes de lettres. Et, écrit-il, de distinguer, alors quand il dit qu'il est soucieux, je veux dire l'encyclopédie. Hein. Il parle au nom du projet encyclopédique. Donc dans cet ouvrage, on est soucieux d'eux. De distinguer ceux qui servent la République des lettres sans la juger, de ceux qui la jugent sans la servir. Mais surtout de célébrer en toute occasion les hommes vraiment illustres de notre siècle. Enfin, vous vous souvenez du rêve du neveu. Hein, il voudrait être célèbre, il voudrait être considéré comme un grand homme, sans avoir rien fait d'important. Il a fait beaucoup de choses, mais rien de vraiment reconnu. Éventuellement, il serait prêt à acheter cette reconnaissance. Et puis, en attendant, eh bien, il fait partie de ceux qui dénigrent les autres, le travail des autres. Ce modèle est sous-jacent partout et parfois il est très visible. Enfin, poursuit d'Alembert, nous nous attacherons autant qu'il sera possible à inspirer aux gens de lettres cet esprit de liberté et d'union, République des lettres, communauté, idéale, qui sans les rendre dangereux, les rend estimables. Il poursuit, sensible à l'honneur de la République des lettres, dont nous faisons moins partie par nos talents, fausse modestie, que par notre attachement pour elle.
Oui.
Nous avons résolu de réunir toutes nos forces pour éloigner d'elle, autant qu'il est en nous, les périls, le dépérissement, j'ai dit le pourrissement, et la dégradation dont nous la voyons menacée. Et parmi ceux qui menacent à ses yeux et aux yeux d'autres encyclopédistes, il y a la catégorie des journalistes. Pourtant, c'est un beau métier aujourd'hui, à nos yeux, journalistes. Mais à cette époque, on se pose la question de savoir si c'est un métier vraiment intéressant, si ça ne risque pas de faire passer au premier plan ce que, depuis le départ dans la République des lettres, on voulait exclure, la satire personnelle. Ça risque de revenir. Sous prétexte de parler d'un livre, on risque de dire des choses inexactes, de porter des accusations fausses et de ruiner aussi l'objectif des hommes de lettres. Car ils ont un objectif, et cet objectif, par réaction aussi, va se préciser jusqu'à atteindre une limite. La limite en question, c'est celle de l'art. Et Diderot va se trouver à certains moments dans une situation un petit peu contradictoire. J'y reviendrai pour terminer. Bah, peut-être que c'est le sort même des artistes et des penseurs que d'être dans une situation contradictoire. Ça, c'est pas du tout impossible. Hein. Qu'importe, et je ne citerai pas beaucoup plus longtemps ce passage, de quelle voie elle se serve, la République des lettres, pourvu que ses vrais intérêts soient connus de ceux qui la composent. Vous voyez, ce n'est pas dit, mais le sous-entendu, c'est qu'il y a des hommes, des femmes aussi, hein, qui ont un certain talent, des dispositions, des capacités, ils savent écrire, savent lire, mais ils en font un mauvais usage, et ce mauvais usage peut finir par mettre en péril la communauté des lettrés et des savants. Donc, il y a un enjeu fondamental. Le problème de la satire personnelle posait de façon plus aiguë que jamais celui des limites de la critique. Malesherbes va donc être obligé de se saisir de cette question. Il va préciser ce que l'on peut autoriser ou tolérer et ce qui doit être interdit. Et comme j'ai commencé à le dire, eh bien, il paraît, en tout cas lu aujourd'hui, beaucoup plus lucide à l'égard de ce qui est réalisable. Malesherbes essaie de calmer d'Alembert en particulier, qui voudrait qu'on interdise à chaque fois, en particulier l'année littéraire, quand la feuille comporte des contre-vérités ou quand la feuille de Fréron est susceptible de nuire à la réputation, en particulier des encyclopédistes, à commencer par lui-même. Voilà. Donc il y a un problème de conflit d'intérêts. Il voudrait bien qu'on règle la question de l'année littéraire, mais en l'occurrence, il le fait à un moment où lui-même a été visé par cette affaire. Alors Malesherbes essaie de le calmer, notamment par l'intermédiaire de Marmontel, mais aussi en lui écrivant directement. Et il lui explique qu'il est très difficile de mettre des limites, car bientôt, on verrait tous les hommes de lettres, tous les savants, mais aussi tous les artistes, tout le monde viendrait dire « Bon, là, vous avez vu la critique, là? Vous tolérez ça? Il est en train de dire que mon opéra est raté. Oh, 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 ça va nuire à ma réputation, ça, c'est pas bon, ça. On va plus avoir de spectateurs. » Donc c'est impossible. Hein, Malesherbes, rétorque, bah oui, mais si on faisait comme ça, on pourrait plus rien publier. On trouverait toujours quelque chose à redire dans une critique. Donc c'est tout l'univers, c'est tout l'espace de la critique, et en particulier de la critique littéraire au sens large. Hein, ça, c'est pas seulement sur les textes qu'aujourd'hui on classe dans la catégorie littérature. Hein, ce sont des commentaires sur l'actualité culturelle et scientifique même. Hein. Malesherbes observe, les gens de lettres pensent de même sur la critique. Ils n'osent pas proposer de la proscrire entièrement, dit-il. Mais on comprend que, sous-entend qu'en fait, si on les écoutait, on pourrait tout aussi bien interdire purement et simplement qu'on écrive sur des œuvres, ce qui serait contre-productif, parce qu'on a aussi besoin qu'il y ait un écho aux ouvrages, qu'il y ait donc une réception. Donc il y a aussi une fonction positive. Et d'ailleurs, la République des lettres se nourrit en grande partie du commentaire. Vous voyez comment Bayle expliquait l'utilité de la critique, et notamment en présentant aussi les nouvelles de la République des lettres. Il faut bien que les hommes de lettres parlent des autres hommes de lettres. Donc ça pourrait aussi tout aussi bien se retourner contre ceux qui font de leur mieux. Donc ce n'est pas possible. Alors comment se fait-il que les encyclopédistes, et en particulier d'Alembert, aient pu être tentés à ce point de limiter la liberté d'expression au nom du rejet de toutes les formes de diffamation et d'attaque personnelle. Alors, bon, il y a le cas particulier d'Alembert qui mériterait une longue discussion. On ne va pas aller plus loin sur ce point. Mais c'est surtout le problème qui mérite d'être noté. Hein. L'éthique de l'homme de lettres, telle qu'elle se dessine au milieu du XVIIIe siècle, parce qu'il était indispensable qu'il y ait une réflexion sur ce que l'on peut faire quand on écrit, en particulier, cette éthique, eh bien, va être obligée de tenir compte de ce problème des limites à la liberté d'expression. Jusqu'où peut-on aller et qui doit intervenir si jamais quelqu'un va trop loin? Malesherbes, lui, pense qu'il faut s'en tenir aux tribunaux ordinaires et à la sanction de l'opinion publique. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples, bien entendu. Malesherbes écrit ainsi, « Mes principes sont qu'en général, la critique littéraire est permise, et que toute critique qui n'a pour objet que le livre critiqué et dans laquelle l'auteur n'est jugé que d'après son ouvrage est critique littéraire. » Et puis ensuite, il en vient au problème des satires et des cas de diffamation. Ce n'est pas que si un auteur abusait de cette permission jusqu'à diffamer ses adversaires en matière grave, ceux qui se croiraient lésés ne pussent se pourvoir devant les tribunaux réglés. Ce n'est pas à la direction de la librairie, ce n'est pas au censeur, ce n'est pas à la police du livre de régler ces conflits, comme il est arrivé plusieurs fois. Mais la fonction de l'administrateur de la librairie, Malesherbes était responsable de la librairie, sous l'autorité de son père, et celle du censeur, ne consiste point à prévenir de pareils abus, sans quoi il serait à craindre que, sous prétexte d'empêcher la diffamation personnelle, on empêchât les critiques qu'on trouverait trop dures, et qu'on ne vînt par degrés à interdire toute espèce de critique, ou à mettre de telles gênes qu'on les réduirait presque à rien. Voilà la position du directeur de la librairie. On est bien loin de l'image selon laquelle les hommes de lettres, et notamment les encyclopédistes, auraient eu affaire à cellules noires avec des censeurs réunis en cachette. Non, leur nom était connu, il y avait un almanach officiel, on savait qui étaient les censeurs, tout le monde connaissait tout le monde. Hein ? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais les hommes de lettres, et aussi certains hommes d'État, au premier rang desquels Malesherbes, ont été confrontés à un problème réel, qui est celui des limites à apporter à l'exercice de la liberté d'expression, la France se trouvant dans une situation de blocage institutionnel du fait de la censure préalable. Tout le problème venait du principe de la censure préalable. Et puis le deuxième niveau du problème, c'est l'attitude des hommes de lettres eux-mêmes. Certains voulaient la réputation avant d'avoir écrit des œuvres. D'autres refusaient que l'on parlât de leurs œuvres. Et une nouvelle catégorie d'hommes de lettres, méprisés par ceux qui estimaient avoir fait leurs preuves, se développait pendant la même époque. On les appelle parfois les écrivains du second degré, la bohème, on parle parfois de bohème littéraire, mais il faut surtout penser au groupe des journalistes soucieux de gagner leur pain, tout simplement. Hein. Et au XIXe siècle, on va continuer à entrer en littérature par le journalisme. Donc, le journalisme est aussi une voie d'accès à la publication. Donc, en soi, ce n'est pas forcément méprisable, mais il y a un conflit, là, entre deux types de légitimité. Diderot est plus modéré que d'Alembert, ou en tout cas va évoluer de façon beaucoup plus rapide sur ce domaine, aussi parce qu'à bien des égards, il est proche des choix de Malesherbes. Mais il ne se prive pas de faire revenir ce problème dans ses fictions, par exemple, et en particulier dans Le Neveu de Rameau. Hein. C'est l'une des questions qui sous-tend Le Neveu de Rameau. Hein. Que faire de cette nouvelle catégorie d'écrivains? Est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Est-ce qu'il faut les assommer? Et parfois, ce ressentiment, ou cette inquiétude, ou cette agressivité, ou cet incroyable humour, ou ironie, ressort là où on ne l'attend pas. Par exemple, dans l'article « Prostituée, prostitution ». Certains d'entre vous le connaissent, je vois. Ou peut-être pas, ils espèrent entendre quelque chose. Mais ce sera assez différent, je vous préviens. Donc c'est un article de grammaire. Terme relatif à la débauche vénérienne. Où sont les auteurs? Une prostituée, une prostituée est celle qui s'abandonne à la lubricité de l'homme par quelque motif vil et mercenaire. Jusque-là, Diderot joue le jeu de la définition du mot. Mais vous voyez, ça a été très court. Tout ça, ça porte bien sur une définition de terme. Et puis après, c'est-à-dire les trois quarts de l'article passent à autre chose. Donc on vient de parler du sens propre. On va passer au sens figuré. On a étendu l'acception de ces mots « prostituée » et « prostitution » à ces critiques, telles que nous en avons tant aujourd'hui, et à la tête desquelles on peut placer l'odieux personnage que M. de Voltaire a joué sous le nom de Wasp, Fréron, dans sa comédie « L'Écossaise ». Et l'on a dit de ces écrivains qu'ils prostituaient leurs plumes à l'argent, à la faveur, au mensonge, à l'envie et aux vices les plus indignes d'un homme bien né. Tandis que la littérature était abandonnée à ses fléaux, la philosophie, d'un autre côté, était diffamée par une troupe de petits brigands sans connaissance, sans esprit et sans mœurs, qui se prostituaient de leur côté à des hommes qui n'étaient pas fâchés qu'on décriât dans l'esprit de la nation ceux qui pouvaient l'éclairer sur leur méchanceté et leur petitesse. Vous vous souvenez de ce dont rêve le neveu de Rameau, hein ? Tout est là. Hein ? On va essayer de nuire, on va essayer d'obtenir indûment une forme de reconnaissance. Toujours est-il qu'il est incontestable que Diderot a mené une réflexion très poussée sur le statut d'homme de lettres. Alors, homme de lettres et philosophe, il emploie les deux, hein, se considère à la fois comme un membre de la République des Lettres, et il revendique, il s'interroge sur sa qualité de philosophe. Est-ce que je mérite vraiment mon statut d'homme de lettres? Est-ce que je mérite vraiment aussi mon statut de philosophe? Alors évidemment, cette question de la légitimité et l'acuité, la radicalité des choix faits par les uns et les autres présente un inconvénient majeur dont on peut mesurer la réalité en pensant par exemple au cas de Marivaux. Donc il y a un inconvénient majeur, c'est qu'on peut aussi commettre des injustices. c'est-à-dire commencer à dire qu'un auteur ne mérite pas le statut d'homme de lettres, ou est secondaire. Alors, l'accusation que l'on rencontre parfois, le terme s'est imposé au XVIIIe siècle, hein, c'est le mot frivolité. L'accusation que l'on rencontre souvent, c'est celle de frivolité. Donc, parmi ceux qu'on va ranger dans les mauvais écrivains, les écrivains de second rang, ou bien les écrivaillons, ou les journalistes, ou les feuillistes, hein, il y a plusieurs expressions péjoratives pour désigner les journalistes, mais parmi ceux qu'on va avoir tendance à ranger dans cette autre catégorie, on va, et c'est malheureux, rencontrer Marivaux. Les encyclopédistes ont été très sévères avec Marivaux, alors qu'ils aimaient bien le théâtre de Marivaux comme spectateur. Certains même connaissaient assez bien plusieurs de ses œuvres, c'est le cas de Diderot. Et quel était le problème? Et en quoi est-ce que c'est révélateur? Bien, Marivaux présentait plusieurs défauts à leurs yeux. Il fréquentait des sociétés dans lesquelles certains de ces dénonciateurs, de ces accusateurs, de ces hommes de lettres corrompus s'exprimaient. Par ailleurs, il avait développé un style qui, à leurs yeux, était superficiel ou frivole. Il donnait une image, il prétendait, il y a des textes où il le dit très clairement, il prétendait revaloriser la notion de bel esprit au moment où on voulait, au contraire, imposer celle de philosophe. Donc il y a une rencontre là qui ne s'est pas faite dans de bonnes conditions. Alors, il y a un problème de génération par rapport à un Diderot, par exemple. Marivaux était en conflit artistique, principalement aussi avec Voltaire. Bref, situation stratégique délicate, mais le cas de Marivaux est très révélateur des inconvénients des choix qui vont être faits. Et aussi, ces inconvénients touchent même Diderot, car à force de vouloir trouver des critères qui permettent d'être au sens plein homme de lettres ou philosophe, eh bien, on finit par rendre problématique l'activité poétique. Donc, il va falloir à ce moment-là ne retenir que quelques très grands poètes qui vont être des grands hommes ou qui vont être des génies. Donc, il y a une c'est pas tout à fait une contradiction, mais en tout cas une sorte de difficulté sur ce plan. Il y a un texte très révélateur à cet égard de Diderot, un texte peu connu, dont je lirai quelques passages, qui est apparu dans la correspondance littéraire tardivement, donc en 1776. Le texte se trouve dans les œuvres complètes sous le titre « Résultat d'une conversation », mais il n'a pas vraiment de titre en réalité. On y retrouve certains des critères de Bayle. Diderot s'interroge sur l'attitude qu'il aurait si un grand venait lui rendre visite. Et il explique qu'il ferait preuve de respect. Il explique qu'on est bien obligé et qu'il existe plusieurs classes de citoyens. Là, il a une attitude, évidemment, qui est aux antipodes de celle d'un Rousseau. Moi, je vis dans la société. Je publie. Je négocie avec des libraires. Et j'ai affaire au directeur de la librairie. J'ai même, au fond, beaucoup de chance, puisque je le connais personnellement. Je ne vais pas non plus cracher dans la soupe. Je ne vais pas dire, bah, oui. Non, moi, je suis, j'ai les mains propres. Donc, non. Non, je fais partie de cette société. Et donc, si un grand venait me rendre visite, eh bien, je ferai ce qui doit se faire, je serai poli. J'ai été une fois menacé de la visite du roi de Suède, Gustave III, actuellement régnant. S'il m'eût fait cet honneur, je ne l'aurais certainement pas attendu dans ma robe de chambre, au moment où son carrosse, la fameuse, se serait arrêté à ma porte. Je serais descendu de mon grenier pour le recevoir. Arrivé sous mes tuiles, il se serait assis et je serais resté debout. Je ne lui aurais fait aucune question. J'aurais répondu le plus simplement et le plus laconiquement à ses demandes, etc. Donc, admettons, puisque nous vivons dans une société, il y a tout de même un minimum d'égard. Mais il n'en demeure pas moins que les hommes de lettres, eux, ont aussi un statut. Alors d'abord, ils ne feraient pas ça pour tout le monde. Il y a une hiérarchie, il y a des convenances à respecter. Par exemple, ils ne le feraient pas, ils ne l'auraient pas fait pour le comte de Kreutz, qui était l'ambassadeur de Gustave en France, et qui s'intéressait beaucoup à la littérature, et que Diderot connaissait. Donc déjà, il aurait marqué moins de preuves de déférence, en particulier parce qu'il le connaissait un peu. Et puis avec d'autres, avec des amis, ben là, Là, je me serais laissé aller. Là, je me laisse aller. J'ai le son de la voix si haut et l'expression aussi libre qu'il me plaît avec mon égal, pourvu qu'il ne m'échappe rien qui le blesse. Tout est bien. Donc, le même principe que pour la publication dans l'encyclopédie et ailleurs. La discussion est libre. Je suis un homme de lettres, je suis un homme libre, je suis un intellectuel. On n'emploie pas l'expression, mais enfin, je suis un philosophe. Parlons librement, je vous respecte, vous me respectez, on cause. Là, ça va. Entre hommes de lettres, on peut. Et c'est là, mon monde. Elle le dit un petit peu plus loin. Je ne pense point que la culture des lettres, appartenant indistinctement à tous les États, ne soit pas une profession comme une autre. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas auteur. Tout le monde parle, mais tout le monde n'est pas orateur. Il y a dans la société des hommes qui dessinent, etc. J'ai une assez haute opinion, poursuit-il, d'une profession dont le but est de rechercher, et la recherche, pardon, de la vérité et de l'instruction des hommes. Je sais combien leurs travaux influent non seulement sur le bonheur de la société, mais sur celui de l'espèce humaine. Il y a un enjeu, les hommes de lettres servent à quelque chose, ils travaillent, ils servent à quelque chose, et voilà le piège qui se referme. Diderot, comme d'autres avant lui, mais de façon plus aiguë à un moment particulier de l'histoire de la culture, est obligé de justifier l'activité d'intellectuel, l'activité de savant, l'activité de poète. Bon, c'est vrai que le mot poète a un sens large. Malgré toute la distinction que j'accorde au philosophe et à l'homme de lettres, je pense toutefois, voilà le moment où cela apparaît plus nettement, que peut-être on s'exposerait au ridicule en promenant dans la société la dignité de cet État sans y être autorisé par des titres bien avoués. Voilà le moment limite. Qui sont ceux qui vont dire « Vous êtes un véritable homme de lettres ? Vous n'êtes pas un véritable homme de lettres ?» Le piège se referme, y compris sur Diderot lui-même, qui est pris entre deux feux. C'est-à-dire, quand est-ce que je deviens plus créateur, libre et sans avoir forcément un objectif immédiat dans la société, comment justifier ? Alors, on s'en sort d'un côté en vénérant les sublimes poètes, et c'est toujours Racine qui revient, c'est toujours Homère qui revient, Voltaire aussi fait partie des très grands. Mais comment justifier l'activité créatrice elle-même, c'est bien difficile. L'homme de lettres, alors, je ne l'ai pas dit, mais si vous écoutez bien, dans le portrait, il y a un petit peu de Marivaux, hein. L'homme de lettres qui jouit de la réputation la plus méritée recevra toujours les égards qu'on lui rendra avec timidité et modestie, etc. Lui dit qu'il préfère, finalement, Diderot, il préfère la société de ses égaux. Et juste avant, il a donné des exemples de comparaison avec Corneille et Racine. Alors c'est peut-être une coïncidence, puisqu'on cite très souvent Corneille et Racine, on cite très souvent aussi Molière, mais il se trouve que à la fin de sa vie, Marivaux, qui était devenu académicien, a voulu présenter des dissertations très sérieuses devant les académiciens. Il a notamment présenté un discours sur Corneille et Racine. Et les autres se sont moqués de lui, notamment dans la correspondance littéraire, sous-entendant qu'il n'avait pas les compétences pour parler de ses auteurs, et d'ailleurs que lui-même avait apporté plus de superficialité dans la langue, et que donc ce n'était pas forcément une amélioration. Injustice. Vu d'aujourd'hui, c'est une injustice. Mais c'est parce que le piège s'est refermé, enfin c'est mon interprétation, le piège s'est refermé sur Diderot et sur d'autres. Il n'en demeure pas moins qu'on voit revenir le critère ou l'obsession de tout à l'heure. J'ajouterai à ce qui précède beaucoup d'autres choses. Si je ne craignais de tomber dans la satire personnelle, je proteste dans la sincérité de mon cœur que je n'ai personne en vue, ironie, et que j'ai le bonheur de ne connaître que des hommes de lettres estimables et honnêtes, et que j'aime et que je rêvais. Alors c'est vrai qu'il en connaît beaucoup d'estimables et honnêtes, mais pas uniquement. Alors, on pourrait approfondir dans cette direction en montrant aussi que Diderot va argumenter en faveur des hommes de lettres, notamment dans une lettre qu'a très bien étudiée Geneviève Camagre, la fameuse lettre à Necker de juin 1775. Dans la lettre à Necker, pour expliquer en quoi les hommes de lettres sont utiles, Diderot est obligé de faire revenir toutes les distinctions dont on vient de parler. Autrement dit, les hommes de lettres servent à quelque chose. Mais avant, il a quand même insisté sur le fait qu'il y avait des génies, de très grands hommes. Et on retrouve Racine, Molière. Il dit, il y a bien des différences. Donc il faut bien reconnaître l'existence de ce secteur. Mais aujourd'hui, là où nous en sommes, il faut commencer par reconnaître la dignité des hommes de lettres. Et qu'est-ce qui peut changer une société? Et qui peut changer une société? Comment les gouvernants pourraient-ils changer une société s'ils ne passaient pas par ceux dont c'est quasiment la spécialité ou le métier, l'activité de réfléchir? Donc, Necker a besoin... Il fait cette remarque, j'ai remarqué que vous n'aimiez pas beaucoup, vous ne faites pas grand cas de la philosophie et des lettres, dit-il au début de sa lettre. Puis au fur et à mesure, il explique qu'en réalité, les hommes de lettres sont ceux qui permettent à une société d'évoluer parce qu'ils ont comme point de repère le critère de la raison, du mérite, de la reconnaissance des mérites et le souci d'éviter la diffamation, la satire personnelle, etc. Alors, même problème que tout à l'heure, c'est très intéressant de procéder ainsi, mais ça présente l'inconvénient que j'ai signalé à l'instant. À qui a-t-il pu s'adresser Necker? Qui peut juger des qualités de ce qu'il écrit, y compris s'agissant de la réforme? Qui est-ce qui parlera de votre travail, lui écrit Diderot, et qui en parlera dignement? Qui est-ce qui assurera le mérite et en accélérera le fruit? C'est celui dont la fonction habituelle est de méditer, celui dont la lampe éclairait vos pages pendant la nuit, tandis que le reste des citoyens dormait autour de lui, épuisé par la fatigue des travaux ou des plaisirs. Qui? C'est l'homme de lettres, le littérateur, le philosophe. Néanmoins, malgré ce piège dont on a vu qu'il commençait à se refermer, les grands artistes trouvent toujours une issue, hein. Malgré ce piège, Diderot réaffirme, on a toutes les raisons de se désespérer normalement, tout montre que avec beaucoup d'argent c'est quand même plus facile, tout montre qu'avec un réseau solide c'est beaucoup plus facile, donc il aurait toutes les raisons de se désespérer, mais néanmoins continue à avancer que la meilleure défense c'est l'avenir. Travailler pour les générations suivantes, c'est ça la meilleure défense. Essayer de penser à ce qui suivra. Parce que si on s'arrête sur tous ceux qui veulent nous nuire, on ne fera plus rien. Donc c'est vrai pour les sciences, c'est vrai aussi pour l'existence même de la République des lettres. Dans l'avertissement dont j'ai déjà parlé tout à l'heure au tome 8, Diderot écrit « Si l'on ajoute aux années de notre vie qui s'étaient écoulées lorsque nous avons projeté cet ouvrage, celles que nous avons données à son exécution, on concevra facilement que nous avons plus vécu qu'il ne nous reste à vivre. Mais nous aurons obtenu la récompense que nous attendions de nos contemporains et de nos neveux si nous leur faisons dire un jour que nous n'avons pas vécu tout à fait inutilement. » Pas d'épilogue ? Juste un mot. Sur la robe de chambre et sur l'encre séchée. La robe de chambre, le texte est très connu, à tout faire. Hein, Diderot adorait ça. Enfin, associer son statut aux traces portées par sa robe de chambre. Et puis quand on lui en a offert une nouvelle, et bien, il s'est inquiété. Et puis quand on l'a représenté avec cette robe de chambre, et bien, il a eu le sentiment que ça ne correspondait pas à l'image qu'il avait de lui-même en tant qu'homme de lettres, que philosophe. Cette robe de chambre, c'était une robe de chambre à tout faire, une robe de chambre d'homme de lettres. Diderot l'évoque avec tristesse et autodérision. Vous vous souvenez, un livre était-il couvert de poussière? Un de ses pans s'offrait à l'essuyer. L'encre épaissie refusait-elle de couler de ma plume? Elle présentait le flanc. On y voyait tracer de longues raies noires. Des raies noires, de l'encre séchée. C'est un peu sale, mais c'est propre aussi, l'encre. C'est noble pour un écrivain. Les fréquents services qu'elle m'avait rendus, ces longues raies, annonçaient non pas le riche puissant qui a une cour autour de lui, pas du tout, mais le littérateur, l'écrivain, l'homme qui travaille. Alors là, c'est dangereux, évidemment. Vous voyez le dilemme de tout à l'heure. Est-ce qu'on va commencer à dire qu'il y a ceux qui travaillent vraiment, ceux qui se lèvent à 5 heures le matin, et puis les oisifs à côté? Attention, gare. Il s'en est sorti quand même, grâce à des livres, en particulier grâce au neveu de Rameau. Il a évité en grande partie le piège. Alors, Diderot, l'homme qui travaille, Diderot, artisan, et en filigrane, attendant la pleine reconnaissance de ses pairs et du public, tout de même, le poète, au sens de l'époque, l'artiste, le grand homme. Souvenez-vous de Rameau. Attention, il ne faut pas dire trop vite qu'on est un grand homme. Les autres doivent le dire. C'est toute la problématique de la postérité. Parlerons-nous de génie ? Tous ces grands mots intimident. Je vous remercie.